On me demande souvent, quelle est la mission du théâtre? Je réponds, le théâtre n'a pas de mission, il est. Nécessaire comme l'arbre, il jaillit des profondeurs.
Jean d'Asté entra à l'école du Vieux Colombier en 1922 à l'âge de 18 ans. Ce jeune homme, assoiffé d'idéal, y trouva la scène, la maison dont il rêvait, celle du tréteau nu. Loin des imposantes machineries des grands spectacles du Châtelet auxquels il participait sans enthousiasme. Loin des cours de diction classique docilement suivis avec un ancien comédien du français. Loin de ce théâtre commercial contre lequel, partout dans le monde, des hommes s'élevaient. Il lui sembla trouver dans ce petit théâtre de 300 places le lieu quasi mythique où se transmettait la flamme d'un théâtre débarrassé de ses complaisances qui reliait son époque à la plus haute tradition. Il y découvrit les bonheurs du travail en équipe, de la libre recherche, y développa ce goût de l'invention et du partage qui fit et fait encore la richesse et l'originalité de son travail. C'est de l'aventure des copiaux à Pernand Vergelès que naîtra l'une des expériences les plus passionnantes de ce que l'on a appelé la décentralisation théâtrale. Après une brève étape à Grenoble, de 45 à 47, d'Asté fondera, grâce au soutien sans faille de Jeanne Laurent, le deuxième centre dramatique national, la Comédie de Saint-Étienne. Pour cet homme, resté fidèle à l'enseignement de Jacques Copeau, et qui, aujourd'hui encore, continue, seul sur la petite scène du théâtre qui porte son nom, de prêter sa voix et son âme à des textes aimés, rien n'a jamais été plus important que la proximité avec son public. La décentralisation, pour lui, et la joie de ce métier, ce n'était pas seulement de diriger un grand théâtre de région, mais avant tout d'aller par les villages avec ses comédiens, son équipe, son chapiteau, porter la parole d'un Molière, d'un Synge, d'un Shakespeare. Dans ses bourgades, ses hameaux, où vivent des gens qui n'ont pas un accès immédiat à la culture et qui, pour être conquis, doivent être vraiment touchés. Mémoire du siècle, Jean d'Asté, Nicolas Roméas.
C'est ma mère qui aurait été aimée être comédienne, qui n'avait pas pu l'être, ça se faisait pas à ce moment-là. Et j'ai été repéré comme troisième enfant, elle en a eu quatre, le troisième, j'ai été repéré. Et quand j'ai été à l'école, dans une petite école libre, aux distributions de prix, où en fait on me faisait réciter des poèmes de Déroulette, c'était avant la guerre ou pendant la première guerre. Alors c'est ma mère qui m'a poussé, qui m'a amené au cours de diction de la mairie. C'est ma mère qui m'a poussé.
Ouais. Oui. C'est assez rare ça. Hein?
Ben oui.
En général, les parents n'aiment pas ça.
Oui, mais... oui.
Votre père s'occupait d'un...
Ben, il était employé à la Compagnie Générale des Voitures à Paris de 1900 jusqu'à la guerre, même après, je sais pas. Il était chef de dépôt, quoi, mais employé. Il aimait le théâtre avec ma mère, mais il aimait aller à la Comédie Française, quoi. On lui donnait des billets. Ses cochers lui donnaient des billets. Il aimait avec ma mère aller au théâtre, quoi. Puis après, quand je suis allé au Châtelet, j'en avais marre, et puis j'avais envie d'autre chose. Je voulais me faire marin ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai découvert le Vieux Colombier. Alors là, l'école du Vieux Colombier, c'était pour moi... Parce que c'était le contraire de ce que j'avais appris, vous comprenez. J'avais un vieux professeur qui nous faisait dire des classiques, qui plaçait la voix, etc. Et puis, qui avait été à la Comédie Française. Le Vieux Colombier, l'école du Vieux Colombier, pour moi, le plus important, c'était l'après-midi quand on était seul et qu'on jouait comme des enfants. On inventait des scénarios et on se délivrait. On était seul. C'était pour moi, ça a été la découverte, le jeu de l'enfance. Et pour moi, le comédien, c'est ça. S'il ne retrouve pas au fond de lui-même, quand il joue, la joie qu'ont les enfants de jouer des personnages, il y a quelque chose qui manque. Enfin, pour moi, c'est comme ça.
Copeau, c'était à un moment donné votre maître. Vous l'avez connu, je crois, quand vous aviez 18 ans, quand vous êtes allé pour la première fois dans l'école du Vieux Colombier. C'était déjà une figure mythique, c'était déjà un personnage qui représentait une certaine idée du théâtre. de la dignité qu'il voulait redonner au théâtre ?
Non, pas du tout. Quand j'avais 18 ans, il était à peine connu. Je sortais du Châtelet, j'avais 17 ans et demi. J'avais entendu dire par des vieux comédiens qu'il était intéressant d'aller voir les petits théâtres de quartier. On en parlait dans certains milieux intellectuels, mais ce n'était pas du tout un mythe. Ça a été un homme qui avait, vis-à-vis du théâtre, une haute idée, une idée très, très, très noble, très rigoureuse du théâtre. Un homme très intelligent, un homme qui s'intéressait beaucoup aux êtres et aux comédiens. Et ce que j'ai appris chez lui, parce que je sortais du Châtelet, j'avais 17 ans, j'avais plus envie de faire du théâtre, il m'a révélé ce qu'était vraiment le théâtre que j'aimais.
Vous aviez participé à une forme de théâtre qui était un peu proche de celle que lui-même a dénoncée, enfin un théâtre...
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'étais au Châtelet, c'est-à-dire qu'il dénonçait, vous comprenez, c'est indispensable. Périodiquement, il y a des êtres qui luttent contre la vulgarité, contre le commercialiste, contre l'argent, contre le système vedette. Il était de ces gens-là. Pour moi, comédien, c'est pas seulement... On ne vit pas même pas sur un mythe, mais sur un maître. Un maître vous a apporté, puis après, il en reste quelque chose au fond de soi. Mais c'est la vie qui vous apporte. C'est les connaissances qu'on a, c'est la réflexion, c'est la connaissance des êtres, c'est ça qui vous enrichit.
Mais quand il a décidé de quitter le Théâtre du Vieux-Colombier pour retourner à Pernant, oui. Il y avait une dimension qui était du domaine de la foi, qui était du domaine du retour à quelque chose de très simple, à une espèce de recueillement.
Il commençait à avoir beaucoup de succès au Vieux-Colombier. Un succès international, un succès peut-être intellectuel, mais un réel succès. Et il avait envie de continuer ses découvertes théâtrales. C'est pas, faut pas dire le mot recherche comme pour la science. Il a eu envie de s'isoler. Il a eu envie de s'isoler et il est allé à la campagne. Il voulait continuer à travailler avec ses élèves et il s'est trouvé que les Copiaux ont été fondés.
Et vous, vous êtes rentré dans ce bain tout naturellement. C'était quand même une aventure extraordinaire pour un jeune homme.
Ah ben oui, d'autant plus que j'avais des parents qui admiraient la comédie française et qui auraient voulu que je fasse une carrière de comédien à Paris. Et ils ne pouvaient pas m'empêcher. Mais c'est à 20 ans que je suis parti, que j'ai fait partie des Copiaux. Il y en avait qui étaient logés à Pernant, d'autres qui étaient logés... à Corton, et puis le Copeau avait un peu tendance à vouloir qu'on... pas qu'on fasse notre prière tous les soirs, mais enfin à vouloir qu'on ne sorte pas trop le soir. Pendant ce temps-là, on allait à Corton et on se saoulait un peu avec du bon vin. Voilà. Mais c'était une aventure, puis ça correspondait... Je suis pas... Ça correspondait à mon tempérament. J'avais envie de cette recherche, de ce contact, de la campagne que j'aimais, etc.
C'est de là, de ce moment-là, de cette période-là, qui apparaissait comme une espèce de retraite, qu'en fait est née les premières tentatives de ce qui était réellement la décentralisation.
Absolument, absolument. On allait jouer dans les villages, à Meursault, à Savigny-les-Beaux, dans tous les villages alentour. On jouait dans les salles de bal, on jouait dans les salles de cinéma, on jouait l'été sur les places publiques, on jouait dans les halles de Nuit-Saint-Georges. Et c'est vraiment on avait vraiment un contact avec un public populaire paysan.
Celui que vous aimez et que vous avez toujours aimé.
Bon oui, mais vous savez, bien sûr, non, moi c'est pas que j'aime le public en général, et j'aime un public, une salle qui soit composée, mais pas seulement de bourgeois et d'intellectuels, qui soit composée de, j'ai pas un goût particulier pour le public populaire, ça m'intéresse en sachant que, aimant le théâtre, sachant le rôle que devrait avoir le théâtre dans la vie des hommes, ça m'intéresse toujours que des gens qui n'ont pas l'habitude du théâtre, qui ne connaissent pas le théâtre, le connaissent. Mais j'aime quand une salle soit remplie d'un public divers.
après la compagnie des 15, j'ai végété à Paris après avoir eu la chance de rencontrer Jean Vigo. Bon, mais après Jean Vigo, c'est-à-dire en 34, Jean Vigo est mort, ça ne m'a pas du tout fait apporter des rôles au cinéma, puisque ça a été, on a censuré Zéro de conduite, et puis La Talente n'a pas eu du tout de succès. Et j'ai été pendant plusieurs années dans une assez grande sécheresse, et à un moment, Jacques Mont est venu me proposer de faire partie, sans devenir un boy scout, sans mettre une culotte, une petite culotte, à ce moment-là, sans m'engager comme boy scout. J'avais été engagé comme comédien, j'ai fait une saison auprès de Léon Chancerelle.
Et les comédiens routiers, on sentait que c'était issu du mouvement scout ou ça avait un petit peu disparu, c'était devenu professionnel ?
Oh ben c'était plutôt devenu professionnel.
Parce que c'est un esprit particulier.
Oui, c'était quand même les scouts, oui. Puisque les tournées qu'ils faisaient, c'était un public scout qui rencontrait. Quand tu as signé l'armistice au mois de juin, je crois, j'étais un peu sur les routes. On fusillait sur les routes, j'étais encore dans le mobilisé. J'étais mobilisé, j'étais dans un état-major. Je veux dire, je crois, moi, qu'on ne pouvait pas ne pas t'arrêter. Parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Les gens se faisaient bombarder sur les routes, et puis l'armée française, il n'y en avait plus. Alors, je veux dire, moi, j'ai pensé que l'armistice était indispensable. J'ai pensé pendant peu de temps, pendant quelques mois, que Pétain était peut-être de connivence avec De Gaulle. Parce que j'avoue que quand j'ai entendu le message de De Gaulle du 18 juin, ça a été un baume pour moi, au cœur. Je dis moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été comme moi, j'ai pensé à un moment que on pouvait pas, qu'il fallait passer par là. Mais quand j'ai, au mois d'octobre ou au mois de novembre, quand j'ai vu Pétain serrer la main d'Hitler, alors je me suis révolté, j'ai été absolument contre Vichy. J'écoutais la radio tous les soirs, et puis dès que j'ai pu, je me suis engagé dans une filière de la résistance. Mais voilà. Mais je veux dire qu'il y a tout de même Jeune France, il y a tout de même quelque chose qui existait, oui, et d'où peut-être sont sorties des formations en province qui ont peut-être sorti de là, peut-être, mais je veux dire que Vichy, pour moi, c'est épouvantable. C'était là. J'ai été à Paris pendant que les Juifs étaient obligés de porter une croix. Ils n'avaient pas le droit d'aller à la poste ou chez l'épicier à certaines heures. Ils prenaient le métro, ils étaient obligés de prendre le dernier rame. Moi, je prenais la dernière rame, mais c'était affreux. Et c'est important à savoir, c'est important à ce que la jeunesse sache ça. Je veux dire que quand on voit qu'un type comme Touvier a été acquitté, là, ouais,
non-lieu.
Non-lieu. C'est pas bien, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a eu une période où il y avait des gens qui dénonçaient, il y a eu une période où on a accepté que les Juifs soient embarqués, que des enfants soient séparés de leur mère. Ça a été la police française qui a été de connivence et la milice. C'est un souvenir atroce. Vous comprenez bien ce que je veux dire, hein? Parce que je vous assure que c'est pas du tout pour me glorifier, j'ai rien fait. J'ai rien fait à côté de ce qu'ont fait des autres. Mais à un moment, la milice française est venue dans un local où, heureusement, je n'étais pas, pour m'embarquer. Et puis j'ai été aussi embarqué, heureusement, tard, parce que j'ai pas été à Buchenwald, mais j'aurais pu y aller. Pour moi, j'ai le souvenir de Vichy. Vécu à Paris. Alors, il y a eu des choses, il y a eu des petites fleurs qui sont sorties peut-être, mais on ne peut pas croire que le Vichy est une vraie influence. L'atmosphère causée par Vichy et par Laval et par Darnan qui disait, je l'ai entendu, nous souhaitons la victoire de l'Allemagne, c'était vraiment pas... Et puis ça a été atroce, parce que c'était une espèce d'hypocrisie à un moment. Une hypocrisie, oui. Un moment, on engageait les jeunes pour aller combattre contre les Russes, parce qu'on parlait du danger russe, du danger des bolcheviks, vous comprenez. Mmh. Et c'était de l'hypocrisie, parce que c'était simplement parce qu'ils voulaient... Vous comprenez. Mmh. Non, je veux dire, on a vécu dans une atmosphère fausse. Voilà.
D'après Serge Haddad, le théâtre dans les années Vichy... C'était une période florissante pour le théâtre, tant sur le plan de la quantité des spectateurs, mais ça on peut le comprendre, puisqu'ils avaient besoin d'évasion, si j'ose dire, et puis d'autre part sur le plan de la qualité aussi, parce que, curieusement, il y avait une nécessité de maintenir ce pays, en tout cas Paris, dans un état de vie culturelle de haut niveau, et peut-être aussi que les Allemands, d'ailleurs, eux-mêmes, avaient envie d'avoir cette vitrine culturelle de qualité. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, vous ?
Oui, enfin, ce que vous dites est juste. Les gens qui travaillaient à Paris, ou bien on prenait le maquis, ou bien on vivait, les gens de théâtre qui étaient à Paris, c'était presque une réaction contre les Allemands. On n'aurait pas, par exemple, Barsac, avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans, et qui était demi-juif et qui avait une femme juive, on n'aurait jamais accepté de faire quelque chose que nous auraient commandé les Allemands. Il y avait une grande liberté dans le choix du répertoire. Mais le fait de faire vivre le théâtre et d'amener du théâtre, c'était presque une réaction contre les Allemands. C'était, vous comprenez ? Ça donnait, ce que vous venez de dire, d'ailleurs, c'est très juste, c'était il fallait que le théâtre vive à Paris ou bien on s'en allait. Et le théâtre, il y avait de la qualité, mais c'était jamais au service d'une propagande quelconque allemande. Mmh. Et malheureusement, bien sûr, Barsac était obligé d'aller trouver un bonhomme allemand à la commandanture pour quand même pour avoir un contact. Mais les Allemands n'avaient pas envie, ils avaient envie aussi que le théâtre marche. Mmh. Vous comprenez ? Oui, il y a ça. Mais je veux dire que moi, ce que je n'accepte pas, c'est que, paraît-il, on dit que Coppo a renvoyé les Juifs. Je ne le crois absolument pas.
En tout cas, il l'a peut-être fait administrativement, et au bout d'un an, il a été renvoyé par les Allemands.
Oui. Un poème de Arlette Humbert-Laroche, morte à Bergen-Belsen, du temps de l'occupation, dans un camp de la mort. On tue, d'un bout de la terre à l'autre, on tue sur la mer. La nuit, on peut voir, dans l'énorme et indifférente solitude de l'eau, les cadavres qui ont encore leurs dernières larmes à leur face de linge, tournées vers le ciel noir. On tue aux courbes fleuries des fleuves, on tue aux flancs chauds des montagnes, on tue dans les villes, et le tocsin qui sonne crie la douleur des dômes saignants et des cathédrales éclatées. Là, depuis des siècles, on a travaillé, mais la terre est soudain devenue une éponge monstrueuse buvant la longue patience des hommes. Partout, la peur, la nuit, la mort. Pourtant, le soleil est là. Je l'ai vu ce matin, jeune, fort, exigeant. Il ruisselait sur les toits. Il mordait au cœur les arbres. Il empoignait la ville aux épaules et réclamait de la terre son réveil. Il est là. Il est au fond de toute chose, et devant ce monde qui s'entr'ouvre, s'affaisse et se replie, il y a la mystérieuse et latente énergie qui refuse des ténèbres et ne veut pas qu'on tue la vie. C'est beau, hein ?
Ouais. Comment vous l'avez...
J'ai reçu un jour un poème de déporté. J'ai reçu comme ça. Puis j'ai eu envie d'en apprendre quelques-uns, quoi. Pour moi, si je choisis, c'est parce que j'aime et c'est parce que ça a un sens et parce que je voudrais communiquer l'émotion que ça me donne, puis c'est tout. Alors maintenant, Paul est noir et un sourire, parce que j'aime pas laisser les gens sur une tristesse. Hein. Alors, et un sourire de Paul Éluard. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Voilà. Avec Barsac et Jacquemont, on a fondé le Théâtre des Quatre Saisons. On a été en Amérique, mais c'est Barsac en réalité qui a pris la direction. Au début, on était Barsac, Jacquemont et moi, mais en réalité, c'est Barsac qui a pris la direction du théâtre. Je ne peux pas dire que j'ai été directeur de théâtre. J'ai fait quelques mises en scène de Molière, mais ça ne comptait, c'était pas le plus important. J'ai commencé à être directeur de théâtre en 1945, quand on est venu le chercher. Mais j'aimais avant tout être comédien et vivre des personnages. Et quand on est venu me chercher pour épauler une maison de culture à Grenoble, eh bien, on m'a demandé, parce que j'avais eu une petite équipe formée dans une école de l'atelier de Barsac qui allait jouer des classiques l'été dans des petits pays du Sud. Mais alors, peut-être à cause de ça, mais je veux dire, c'est à partir de là qu'on m'a dit qu'il fallait épauler une maison de culture et fonder une troupe à Grenoble qui rayonnerait dans la région. Ben, j'ai accepté. C'est tout. Mais si on n'était pas venu me proposer, peut-être que j'aurais préféré être simplement comédien, je ne sais pas. Il y a un fait, c'est qu'il y avait, il y a encore une proportion infinie, très grande, de gens qui ne vont pas au théâtre. Mais à ce moment-là, en 1945, pendant toute cette période d'avant, il y avait, la province était visitée par des tournées barrées. Mais il n'y avait pas vraiment, sauf des troupes musicales à Bordeaux ou à Lyon, la vie théâtrale ne vivait que par Paris. Or, je pense que le but de la décentralisation, à l'origine, ça a été de faire éclater le théâtre, de donner une vie au théâtre de la province qu'elle n'avait pas. C'est ça le problème profond. Ouais. C'est pour ça que je râle actuellement, pas tous, mais il y a des centres dramatiques qui n'ont pour but que d'aller à Paris et qui renoncent, je ne dis pas qu'ils devraient faire comme nous qui allions jouer sur les places publiques ou dans les cinémas de Saint-Chamond ou autres, je dis simplement qu'il y a des théâtres qui existent autour des centres et que certains centres ne les visitent plus et que c'est une erreur. Certains centres n'ont qu'une ambition, c'est d'aller à Paris. Et là, mais je veux dire la décentralisation, si vous comprenez, si vous alliez avec moi à vous balader dans les endroits où la Comédie de Saint-Étienne allait avant, que ce soit Montbrison, que ce soit Le Puy, que ce soit... Et je parle des théâtres, je ne parle pas des petits endroits, pas des cinémas, mais des théâtres, que ce soit à Montbrison, que ce soit à Amberg, etc. Mais les gens maintenant... qui ont connu ça sont malheureux, ils ne sont plus visités par ça. Évidemment, c'est remplacé par la télé, mais c'est tout autre chose. C'est ça.
Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui, bien sûr, mais Coppo se posait la question de dire, finalement, en dehors des considérations esthétiques, la grande question, c'est de savoir, le théâtre sera marxiste ou chrétien.
On fait des conneries. Oh non, pardon. Je ne sais pas, moi, ça. C'est pas. C'est des vues d'intellectuels. Hein. Le théâtre, il ne s'agit pas. Le théâtre, ça dépend. On verra comment est la société, mais la société, qu'elle soit marxiste ou qu'elle soit chrétienne, le théâtre, c'est réunir des gens pour les éveiller à quelque chose, pour les réunir, pour les rassembler. Le théâtre, c'est ça. Alors, marxiste ou chrétien, ça m'est égal. C'est aux historiens à décider ça. Mais je trouve que c'est des phrases d'intellectuels, ça.
C'est pas important, ça. C'est des étiquettes.
Mais c'est pas que c'est pas important. Je veux dire, c'est pas à nous à dire le théâtre serait chrétien ou ceci. Le théâtre, chez les chrétiens, ou chez les marxistes, ou chez les socialistes, n'importe où, le théâtre doit toujours exister. Et les hommes ont besoin du théâtre, quelle que soit la civilisation, la croyance et tout. Après la guerre, la victoire qui a été grâce aux Alliés, grâce à tout, mais aussi grâce aux Russes, a influencé, et on a été, beaucoup de gens, et même d'intellectuels, sans être communistes, était tout de même ouvert et pas fermé au communisme, vous comprenez ? C'est simplement ça.
Stanislavski était venu à Paris plusieurs fois.
Oui.
Et ça avait compté.
Mais bien sûr, de toute façon. Je veux dire que je suis chrétien, je ne suis pas depuis assez longtemps, je ne suis pas pratiquant ni dogmatique du catholicisme, mais l'évangile compte beaucoup pour moi, c'est tout. Mais depuis longtemps, je n'ai pas du tout envie de me lier à une doctrine ou à un dogme.
Tout à l'heure, j'esquissais la possibilité qu'une idéologie corresponde ou ne corresponde pas à l'idéal du théâtre. Vous y avez répondu. Et ça m'amène à vous poser une question sur cette, je trouve, exemplaire histoire de l'espèce, entre guillemets, de procès que vous ont fait les fameux doctrinaire brechtien, quand vous avez monté ce qui a été un grand succès pour vous,
oui.
Le cercle du Cré caucasien, donc qui était un des grands succès de la Comédie Saint-Étienne, sous votre règne.
Oui.
J'aimerais bien que vous disiez deux mots là-dessus.
Bah oui, on avait découvert que depuis quelque temps Brecht, on avait monté, on avait eu la chance et les droits de monter le cercle de Cré. Et puis, on l'a créé naturellement dans notre région. Et puis, on avait retenu une salle à Paris. Et puis, Robert Boisin et les gars du Théâtre Populaire, à ce moment-là, de l'Arche, ont voulu nous empêcher de jouer parce que le côté politique de la chose ne ressortait pas assez, le côté communiste ne ressortait pas assez, et qu'on avait donné trop de place à la poésie, au fond, c'est ça. Et puis d'ailleurs, il faut dire que on est revenu à Paris et Brecht était mort et puis Hélène Weigel est venue voir le spectacle et elle a aimé.
Alors... Et elle a aimé Madame Bertin qui avait été tant
critiquée. C'est ça.
Je trouve que c'est une belle leçon de théâtre.
Oui. Je dois dire que quand j'ai découvert Brecht, quand ils sont venus à Paris jouer le cercle de Cré, j'ai trouvé que c'était un monde qui continuait, qui correspondait à ce que j'avais appris au Vieux Colombier. Il n'y avait pas des décors énormes, il n'y avait même pas de changement d'éclairage pour ne pas que la beauté, que l'esthétique prenne le dessus. Il y avait des petits changements, il y avait des acteurs, il y avait un monde poétique. Il y a un monde poétique, c'est ce que je crois toujours et que j'aime énormément. Ça a été une veine pour nous de créer le cercle de Cré, nous-mêmes en France. En même temps, moi j'ai été très heureux de créer une pièce de Liliane Atlan qui était tout autre chose, mais qui avait un sens, parce que c'était l'histoire des enfants juifs polonais qui s'étaient cachés et qui avaient été embarqués vers la mort. Il y avait une image là-dedans qui était très forte, c'est tout autre chose que Brecht. Je veux dire que le théâtre, j'aime beaucoup Beckett, bien sûr, quand j'ai vu pour la première fois En attendant Godot, ça a éveillé quelque chose en moi.
Le théâtre doit éveiller, mais c'est pas l'esthétique. C'est pas par l'esthétique que j'ai aimé Brest, c'est parce que son sens poétique et humain.
Cette aventure de la décentralisation, vous en avez vécu donc les périodes les plus difficiles, celles où il fallait lutter contre le mur des notables.
Ah non, ça n'a pas été facile. Mais rien n'est facile. Mais ce sont les difficultés, quelquefois, qui donnent du sel et de l'agrément à ce qu'on fait. Si tout était facile, ce ne serait pas rigolo. Vous comprenez, la vie est comme ça. Et puis, heureusement, on peut toujours se bagarrer. Et c'est une joie de se bagarrer. Moi, je n'ai pas eu à essuyer des plâtres. On a petit à petit amené un public. Au début, c'était dur. Mais pour moi, j'avais la joie, avec mes compagnons, de faire un théâtre que j'aimais, de monter des pièces nouvelles et des pièces anciennes et des pièces de Molière. Et j'avais la joie d'avoir une vie un peu de saltimbanque, mais que j'aimais. C'est parce que je l'aimais que je faisais ça.
Ce que vous aimiez le plus, c'était le côté chapiteau, voyage, un peu quelque chose dans la tradition des forains, finalement.
Oui, c'est vrai, oui, j'aimais beaucoup dans un cirque ce contact avec les gens qui étaient au premier rang, qui étaient dans le cirque, et puis quand on a joué le bourgeois gentilhomme dans le cirque, à la fin, les gens venaient faire une farandole avec nous, les gens du premier rang, bien sûr. Mais il y avait un contact avec le public, un partage avec le public, une espèce de connivence. Il y avait l'équipe des forains, avec le clown, avec les animaux, quelquefois. C'était eux qui montaient le spectacle, mais pour eux, c'était un peu une vacance, et ils étaient contents. Et puis, on se mettait sur les places, que ce soit à Saint-Chamond, que ce soit des places de Saint-Étienne, des places de la région. Et puis, on faisait des parades, et on avait un contact avec le public qui me plaisait beaucoup, qui correspondait, au fond, assez bien à mon tempérament.
Est-ce que vous me diriez deux mots d'une personne dont on sait que l'importance était très grande, mais qu'on connaît mal, qui était Jeanne Laurent ?
Oh oui ! Je veux dire, d'abord, il faut dire qu'il n'y aurait pas eu Villars s'il n'y avait pas eu Jeanne Laurent. On le sait, il n'y aurait pas eu la décentralisation, comme elle s'est épanouie un moment, s'il n'y avait pas eu Jeanne Laurent. C'était très simple, quoi. Elle avait un petit appartement rue du Bac à ce moment-là, puis rue Piquet aux Fleurs ensuite, elle réunissait les directeurs de centre, et puis on parlait avec elle, et puis elle écoutait, et puis elle ne serait jamais mêlée de dire de la création du tout, ni de, mais elle tenait à ce que on puisse jouer devant un public populaire, devant, comme nous le faisions, quoi, dans les villes. Une fois, je m'en rappelle, elle venait nous voir, elle venait me voir. Quand on commençait, elle était venue à Moutier, on l'avait. Elle aimait ça, elle suivait ça. Elle participait à la vie des centres. C'était une femme exigeante en même temps. Elle voulait qu'on donne un certain nombre de représentations, vous comprenez, elle y tenait. Elle favorisait, elle défendait les troupes.
Mais c'était quelqu'un de solide, hein, parce que elle était très attaquée, Marcel Achard, Henri Janson.
Je le savais même pas, je m'en foutais. Pour moi, c'est une grande bonne femme. Je me rappelle, il y a aussi Huberto qui avait écrit, les décentralisateurs d'Astier va jouer un nœud à Isinjo, je me rappelle, c'était ça. On a monté des nœuds japonais, on a monté des tas de choses. Elle nous laissait tout. Et puis elle nous disait une chose, vous savez, votre subvention, c'est l'argent des contribuables. Faut bien vous en rendre compte, vous voyez. Alors elle défendait les troupes, elle défendait le sens de la décentralisation au départ, c'est-à-dire qu'elle voulait que dans une région, on donne un certain nombre de représentations, mais elle nous laissait tout à fait libre de l'organisation, de la création et de tout. Moi, je voulais pas aller à Paris, ça m'emmerdait d'aller à Paris.
et elle nous obligeait à aller à Paris. Et puis je vais vous raconter une petite anecdote d'ailleurs. À un moment, Louis Jouvet était contre la décentralisation. Il disait que tu vas foutre à Saint-Chamond, mon petit père. Et puis il y a un moment, il a été conquis. Et puis alors, quand, peu de temps avant sa mort, Jeanne Laurent voulait absolument qu'on vienne montrer quelque chose à Paris. C'était le bourgeois gentilhomme. Alors, moi j'arrive, je cherche, je fais semblant de chercher, et je dis à Jeanne Laurent, je crois qu'on ne trouvera pas, hein, on ne pourra pas aller à Paris. Alors on dit, qu'est-ce que ça tienne, vous allez voir. Elle prend son téléphone et elle a Jouvet au bout du fil. Et Jouvet, qui à ce moment-là était inspecteur des théâtres, lui dit ainsi, je leur offre le mois d'août, le mois de septembre, hein, ils pourront venir dans les conditions qu'ils voudront. C'était Jouvet.
À l'Athénée.
À l'Athénée. Alors nous sommes allés à l'Athénée, on s'est fait rentrer par Jean-Jacques Gauthier, bien sûr. Mais enfin, on a joué grâce à Jouvet. Et moi, ça m'emmerdait. Je n'avais pas du tout envie des Parisiens. Non, mais...
Et vous parliez de... Vous parliez de nos Japonais.
Vous savez ça, ça vient aussi du Vieux Colombier. Parce qu'à la fin de l'école du Vieux Colombier, montée par Suzanne Bigne, nous avions monté un no. C'était tellement poétique, tellement... rassemblé pour les comédiens, tellement nouveau, enfin, le cœur, que j'ai voulu reprendre de nos. On a monté de nos, la Sumida et Kagekiyo, et pendant 25 ans, quoi, c'est pas énorme. On l'a monté surtout à Grenoble.
Mais comment est-ce que le public grenoblois pouvait réagir? Parce que ça se faisait pas beaucoup à l'époque, ça.
Mais c'est que ça peut foutre. Le public grenoblois, il voyait quelque chose de beau qui les émouvait, qui les mouvait. Kagekiyo, par exemple, c'était un vieil aveugle mendiant qui vivait isolé et qui avait participé à une guerre. Et puis sa fille vient le voir. Vous connaissez? Sa fille vient le voir et au bout de longues années, il retrouve sa fille. Il est aveugle. Et c'est donc une fille qui retrouve son père aveugle, un vieux guerrier, qui lui raconte sa gloire. C'est magnifique comme histoire. Les gens n'ont pas à se dire c'est un nous japonais. Ils sont émus quand on leur présente quelque chose de beau.
Mais dans la forme théâtrale, c'était quand même un peu...
L'ensemble, c'était beau. C'est la forme théâtrale, ben, les gens simples se laissent aller, puis voilà. Ce qu'il faudrait de nos jours, voir disparaître au plus tôt cet art de la mise en scène, considéré comme une fin. Réduire le spectacle à sa plus simple et difficile expression, qui est le jeu scénique ou, plus exactement, le jeu de l'acteur. Et donc éviter de faire du plateau un carrefour où se retrouvent tous les arts majeurs et mineurs, peinture, architecture, électromanie, musicomanie, machinerie, etc. Les vrais créateurs de ces dernières années ne sont pas les auteurs, mais les metteurs en scène. J'écris cela sans me réjouir. C'est Jean Vidard qui dit ça.
Vous pensez que c'est toujours vrai?
Plus que jamais. Bah, je ne peux pas penser ça parce que je ne connais pas assez, je ne circule pas assez. Mais c'est très vrai pour pas mal de gens. Mais il y a de jeunes équipes qui réagissent contre ça.
Dans cette démarche d'aller vers les gens, hein, d'être vraiment en contact direct avec une population, vous aviez quand même un ancêtre qui avait pas mal réussi, c'était Maurice Potcher, finalement.
Ah oui, sûrement.
Avec le théâtre de Bussang, donc,
sûrement,
dans les Vosges.
Oui, je sais, mais oui, mais je dis pas qu'on était les premiers, mais sûrement. Moi, je pense qu'on a joué le cercle de Crécocasia. Alors, on avait mis une avant-scène, une espèce de praticable à proscénium. On s'arrangeait toujours pour pouvoir donner l'espace voulu, même dans les cinémas. Mais c'est ça, cette bacaille qui est intéressante. Si on n'a pas le sens... la vie est comme ça, vous comprenez, tous les peintres, tous les vrais peintres, tous les grands peintres, ils se bagarrent, ils ont toujours à lutter contre quelque chose. Je trouve que la lutte, c'est la vie.
Voilà un texte de Jouvet. Il devait sûrement avoir dans les 10 ans de plus que moi. Je sais pas. Je sais qu'il est mort à 64 ans. Pour être comédien, il faut se montrer. C'est d'abord un plaisir de vanité pure et de présomption téméraire. Il dure parfois jusqu'à la mort. Mais si un jour tu t'aperçois de cela, tu auras découvert l'important du métier. Peut-être est-ce son but, sa fin essentielle. Car tu comprendras, tu seras sur le chemin de comprendre que pour bien pratiquer ce métier, l'important est dans le renoncement de soi pour l'avancement de soi-même. Tu comprendras que la niaise manie d'un non de ton moi encombrant te possède et que pour être personnel, il faut d'abord se dépersonnaliser. Et que la personnalité la plus haute est faite d'impersonnalité, d'une distillation et sublimation de soi-même à travers le serpentin des opérations dramatiques. Ça répond un peu à ce qu'on disait. Oui, c'est un peu dur.
Vous prenez ça comment? Comme un sacerdoce?
Oh, pas du tout, j'ai pas de sacerdoce. J'ai lu un jour ce truc de Jouvet. J'ai lu il y a longtemps, d'ailleurs, je l'ai connu il y a longtemps, quand on a commencé à faire de la décentralisation. Quelques années après, j'ai trouvé ce texte, j'ai trouvé que c'était un bel texte bien. Il n'y a pas de sacerdoce. Tout est sacerdoce. La vue d'un arbre. Ou... Vous comprenez? Je veux dire que... Tiens, je vous le passe, si vous le voulez, ce texte.
Merci
beaucoup. Vous comprenez? Je veux dire que justement, je ne crois pas qu'il y ait de sacerdoce ou tout est sacerdoce, vous comprenez? Quand je parle dans mon petit livre de ce Polnair, ce Russe, vous voyez? Mais j'y pense. Mais il a eu une influence profonde sur moi, au fond. Vous comprenez? Je l'ai à peine connu. Et quand il me parlait du théâtre, il était un réfugié russe en 1920, par là, de la Révolution russe. Il était mime à Vladivostok et il connaissait le théâtre, il avait une culture sur le théâtre. Il connaissait Gordon Gregg, il connaissait Stanislavski, etc., les nouveaux. Et il avait un amour, une ferveur et une exigence du théâtre formidable. Mais c'était, je me baladais avec lui. Je peux dire qu'il a eu une influence, comme Vigo, par sa personnalité, a eu une influence.
Pour vous, et surtout à l'époque où le cinéma, c'était quand même pas chose aussi courante qu'aujourd'hui pour un comédien, est-ce qu'il y avait une contradiction entre jouer devant une caméra et être acteur dans la tradition?
Il y a une grande différence, parce que l'acteur qui joue une pièce, la prépare un certain temps, quelquefois 15 jours, quelquefois un mois, quelquefois 2 mois, et puis il a la responsabilité, une fois qu'il a été mis en scène, il est responsable de ce qu'il doit faire devant le public. Il est seul responsable. Et il lui faut beaucoup de courage, il lui faut le sens de sa responsabilité. Quand on fait un film, on est dans un petit coin, on vous appelle, on vous met entre des lumières, on vous a préparé un texte qui dure 1 minute ou 2 ou 15 secondes, et puis il faut être dans le coup. Alors c'est complètement différent. Mais le fond est toujours le même, parce que c'est dans des conditions différentes, mais le problème est d'être au fond, dans le personnage, avec ce texte. Alors j'aime mieux jouer au théâtre qu'au cinéma, mais quand il y a un metteur en scène avec lequel on s'entend, on se sent lié par quelque chose, c'est très agréable aussi. J'ai eu de la chance de jouer d'abord avec Vigo, puis à ce moment-là c'était un peu la naissance du cinéma. Ils étaient 5 ou 6 autour de lui. Le son, la lumière, la caméra, 7 ou 8. Et ça se passait, on attendait, on jouait le plus souvent dehors. C'était presque un jeu. Je retrouvais un peu. Mais je veux dire que, oui, quand j'ai travaillé avec Vigo d'abord, puis avec René, puis avec Truffaut,
le fait de, d'avoir un vrai metteur en scène qui se met à votre place, qui vous comprend et qui vous défend. Parce que les gens comme Truffaut, ou comme René, ou comme Tavernier, avec qui j'ai eu la chance de tourner, ces gens-là, ils ont un respect pour le comédien. Et non seulement il faut que tout le monde se taise, mais il faut qu'on laisse le comédien se pénétrer. Quand j'ai affaire à des gens comme ça, et j'ai eu la chance de ça, et ben c'est autre chose que le théâtre, mais c'est aussi très prenant.
Est-ce que les gens de théâtre, vos premiers maîtres, hein, donc Copeau pour ne pas le nommer, trouvaient là une concurrence, ou est-ce que ça pouvait éventuellement leur déplaire
Non, ça ne leur déplaisait pas. Je veux dire que vous comprenez que Copeau, moi, quand je l'ai vraiment connu, ça a été du temps des Copiaux. Après, ça a été épisodique, vous le voyez à Paris, etc. Mais au contraire, Copeau, quand les Copiaux se sont terminés et qu'il avait le souci que je gagne un peu ma vie, il m'avait recommandé à Dreyer, qui avait monté le Jeanne d'Arc. Ouais. Il m'avait fait faire des tas de photos, puis ça n'a pas marché. Mais enfin, il avait envie, il n'était pas contre le cinéma. Ouais. Il avait envie que je gagne ma vie avec un type comme Dreyer.
Ça vous arrive de rencontrer des jeunes compagnies aujourd'hui qui...
Oui. Ah ben ça, je voudrais le dire. Je voudrais le dire parce que je reçois, vous savez, je reçois des invitations, des programmes, des documents sur les jeunes troupes, et il y en a beaucoup. Et qui sont très intéressantes. Je connais en particulier, je vais vous le dire, un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Masque, qui a rien qu'avec des amateurs, ils aiment ça, et ils présentent des spectacles qui sont souvent remarquables. Et ça prouve à quel point le théâtre aide les hommes à vivre. Quand je vais à Montbrison, ou du Montbrison parce que c'est pas loin d'ici, que je connais quelqu'un, et que je rencontre des gens qui, il y a 30 ans, étaient très jeunes, et qui maintenant ne sont plus jeunes, mais qui se souviennent, c'est pas seulement moi, c'est le théâtre. Quand une graine est jetée, si elle est valable, elle pousse, elle meurt et elle pousse.
Vous avez beaucoup défendu les classiques.
Depuis 25 ans, on a monté près de 20 pièces. On avait monté près de 20 pièces de Molière. Mais il y a quelqu'un qui a écrit qu'il y avait, que les deux tiers étaient classiques. C'est pas vrai. C'est le tiers à peu près qu'on a joué, dans lequel on a joué des classiques, mais c'est pas les deux tiers.
Mais Molière, parmi les gens de cette famille de théâtre dont vous faisiez partie, il avait vraiment l'unanimité. C'était le ciment qui vous réunissait.
Oui, c'est vrai. Mais vous savez, moi je. Molière, non seulement je l'admire pour sa force, pour son besoin de vérité, mais les textes de Molière sont formidables. La force du verbe, c'est formidable. Quoi qu'en dise Aristote ou toute la philosophie, il n'y a rien d'égal au tabac. Tous les textes de Molière... Mon frère, s'il vous plaît, le discours en plein pointant et que chacun de nous vive comme il l'entend. Ben, qui est-ce qui sait dire en si peu de phrases une chose qui est en sens, c'est formidable. Le texte de Molière est formidable. J'adore toujours Molière, je l'aime presque de plus en plus parce qu'on sent l'homme. Que ce soit le misanthrope, que ce soit l'école des femmes, que ce soit le Don Juan. Il y a chez Molière, il y a dans Molière, il y a un besoin de sincérité, du faux avec le vrai faire la différence, je crois que c'est dans Tartuffe. Et c'est ça, il a lutté contre l'hypocrisie, il a lutté contre le faux-semblant, il a lutté contre les dévots. Il y a une espèce de besoin de vérité. Don Juan est une pièce formidable. Et j'ai un grand souvenir de Jouvet là-dedans. Il était formidable dans Don Juan. C'était fou. À la fin, quand il défiait le ciel, bon, bien, ça avait une gueule.
Je vous pose une petite question indiscrète. Comment vous avez vécu la brouille de Copeau, d'abord avec Dulin, et ensuite avec Jouvet?
C'est égal, moi, vous savez. Il y avait la brouille, puis à un moment, il y a eu un article de Jouvet et Dulin. Contre lui, ça a fait de la peine à Copo, mais je peux pas te dire que j'en ai souffert, quoi.
Vous n'avez pas pris parti, enfin.
Non. Non, parce que pour moi, le Copo, c'était pas... Quand ils se sont fâchés, c'était quand Copo voulait avoir un théâtre, c'était après, vous comprenez. Et ils avaient des raisons, eux aussi. Copo était peut-être un peu trop...
Possessif.
Orgueilleux. Oui. orgueilleux. Il avait une grande force en lui, et puis il aurait peut-être trop voulu qu'on... Mais il regrettait pendant la période entre 30 et 40, je ne sais pas, il regrettait qu'il n'y ait pas davantage d'union entre les novateurs. Et il aurait aimé que ce soit lui qui soit à la tête de ce groupe. Ça aurait peut-être été bien, mais je veux dire, ça c'était une bagarre entre eux. Moi, je n'ai pas du tout participé.
De René Char, argument. Comment vivre sans inconnu devant soi? Les hommes d'aujourd'hui veulent que le poème soit à l'image de leur vie, faite de si peu d'égards, de si peu d'espace et brûlée d'intolérance. Parce qu'il ne leur est plus loisible d'agir suprêmement dans cette préoccupation fatale de se détruire par son semblable, parce que leur inerte richesse les freine et les enchaîne, les hommes d'aujourd'hui, l'instinct affaibli, perdent, tout en se gardant vivants, jusqu'à la poussière de leur nom. Nés de l'appel du devenir et de l'angoisse de la rétention, le poème, s'élevant de son puits de boue et d'étoiles, témoignera presque silencieusement qu'il n'était rien en lui qui n'existât vraiment ailleurs, dans ce rebelle et solitaire monde des contradictions.
Est-ce que vous pensez que face à la concurrence de la télévision, du cinéma, la notion de théâtre populaire a encore un sens aujourd'hui?
Ah ben, écoutez, moi je crois, non seulement j'y crois, mais je veux dire que si on se pose la question, est-ce que c'est le moment de faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça? On ne fait rien. Faut pas dire comme certains directeurs de théâtre, maintenant on peut pas avoir une troupe en province, c'est plus difficile. Mais si on veut vraiment avoir rassemblé une troupe en province, on l'aura. Seulement faut le vouloir. Et on rassemblera les comédiens et on pourra. Seulement si on se dit à l'avance maintenant c'est plus le moment, on fait rien. Mais tout est comme ça, vous savez.
Ouais, mais d'une certaine façon, on peut aussi se dire que c'est dans les périodes très difficiles de l'histoire que le théâtre donne sa pleine mesure, que les héros de théâtre apparaissent.
Je ne sais pas.
Parce que là, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose à défendre, le théâtre...
Oui, oui. Ben, je ne sais pas. Moi, je crois, pour répondre à ce que vous dites, je crois que on est toujours dans une période difficile. Il faut toujours défendre quelque chose. Et aujourd'hui, plus que jamais, pour moi, il faut défendre quelque chose. Je trouve qu'il y a une espèce de... Quand je me balade pas, mais quand je suis à côté de ma compagne qui conduit, parce que je conduis plus, et que je vois les gens, il y a une espèce d'inquiétude, de côté amorphe des gens. Et je crois que plus que jamais maintenant, il faudrait les réveiller. Je crois qu'on est dans une époque qui peut être une époque héroïque. Mais je crois que c'est comme ça. Seulement, c'est trop facile de dire « maintenant, ça se fait plus, on peut plus, vous comprenez, on peut plus aller à Saint-Chamond comme faisait D'Asté. Je ne demande pas qu'on aille à Saint-Chamond comme faisait D'Asté et qu'on joue dans le cinéma. On a joué Bertolt Brecht dans un petit théâtre. Je ne demande pas qu'on fasse ça, mais je demande qu'on prenne les choses en main. Je demande qu'on qu'on fasse construire des cirques pour le théâtre, des théâtres ambulants. Je demande qu'il ne faut pas lâcher. Plus que jamais, les gens ont besoin d'être éveillés par le théâtre. Je dirais que le théâtre, pour moi, c'est essentiel à la vie des hommes. Le théâtre, les gens, et c'est essentiel, je dirais presque que beaucoup de gens pourraient être comédiens, parce qu'être comédien, c'est vivre d'autres vies qu'on a en soi et qui peuvent révéler aux êtres ce qu'ils sont, les amuser ou leur faire réfléchir. Le grand théâtre, c'est ça, que ce soit Molière ou que ce soit Sophocle, ou que ce soit même un théâtre, que ce soit Jean Anouilh, etc. Le théâtre, c'est ça.
C'était Mémoire du siècle, Jean d'Asté, par Nicolas Roméas, mixage Serge Ristich, réalisation Olivier Copin.